Radio Foot International, Annie Gasnier.
Et merci de nous retrouver dans le Café des Sports de Radio Foot International en cette fin de semaine et début de week-end pour certains en tout cas. Et n'oubliez pas, vous pouvez nous écouter, vous pouvez aussi nous regarder sur notre page Facebook aujourd'hui tout de suite en live, mais aussi tout au long du week-end, tout au long de la semaine, sur la chaîne RFI, RFI YouTube bien sûr. Et puis sachez que vous pouvez vous abonner à l'émission Radio Foot International à travers votre application favorite, quelle qu'elle soit. Ainsi, vous serez au courant de tout ce que nous publions en plus. Et notamment, eh bien, vous le savez, hein, il y a un sondage sur notre page Facebook pour savoir quels seront les qualifiés, ou devinez plutôt, quels seront les qualifiés des quarts de finale de la Ligue des Champions. Nos invités sont là et je vous les présente tout de suite. Bonjour Habib Bey.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Bonjour et merci d'être là, ainsi que Rémi Ngono et Xavier Barré. Le tandem est recréé. Bonjour.
Bonjour et surtout, je vais demander à tout le monde de faire une ovation pour moi parce que je viens de réussir à repérer et surtout à convaincre Xavier Barré de ne pas se suicider, lui qui était en grève de la faim. Donc je suis venu avec lui main dans la main et il m'a dit...
Vous avez vu Rémi, les couleurs qu'il a, on dirait pas vraiment qu'il était au bord du suicide,
oui,
notre ami Xavier.
Et loin de la grève de la faim, entre raclette, tartiflette et fondu savoyard.
Plutôt en vacances.
Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver tous.
Merci d'être avec nous. Notre consoeur du Rwanda, Ariane Ouamahoro, est là aussi. Bonjour.
Bonjour Annie, bonjour tout le monde.
Et puis le réfé, bien sûr, fidèle au poste, lui aussi. Bonjour Alejandro.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Alors dans les débats du jour, eh bien, une recrue pour les Blaugrana. Martin Braithwaite a été présenté hier à la presse avant de renforcer l'équipe. Une équipe du Barça, vous le savez, privée d'Ousmane Dembélé. L'international du Danemark vit un rêve éveillé, vous l'entendrez. Mais ce choix interroge beaucoup d'observateurs. En plus de créer un gros problème au club délesté de l'ancien Toulousain, Leganés, qui est aux portes de la relégation, mais ne pourra se renforcer. L'affiche du week-end européen, c'est un derby londonien avec un match Chelsea-Tottenham. Une confrontation pour la quatrième place de Première Ligue entre des Blues privés de N'Golo Kanté qui attendent le Bayern Munich à Stamford Bridge et puis des Spurs inquiets pour leur fin de saison après leur défaite contre Leipzig. Enfin, des éléphants sans tête, sans défense et sans tête peut-être. Ibrahim Camara a été remercié hier soir par les dirigeants de la Fédération ivoirienne. Un mois d'une double confrontation face au Bareas. Drôle de timing de la part de la FIF. Et qui pour s'asseoir sur le banc? Eh bien, de cela, nous en parlerons aussi, ainsi que le CHAN, puisque le coup d'envoi de la compétition africaine aura lieu dans 6 semaines. La répartition des groupes a été révélée il y a quelques jours. Radio Foot, le Café des Sports, les débats sont ouverts.
Ahí está, precisamente Braithwaite. Gol, 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 gol.
Tous les footballeurs rêvent de jouer pour le Barça. J'ai hâte de commencer à marquer des buts avec le numéro 19.
Il était un peu seul hier après-midi sur la pelouse du Camp Nou et ceux qui regardent à travers Facebook Live peuvent le voir, Martin Braithwaite. On ne sait plus trop comment il faut le dire, s'il faut prononcer à l'espagnol, à la danoise, à l'anglaise ou à la française.
Ou à la façon de ma langue. La langue de chez moi, c'est-à-dire en Ehundo, on dit Brett, donc c'est-à-dire le pain.
Alors, donc, vous allez dire moi, comment vous, Rémi?
Brett.
Braithwaite.
C'est bien, c'est-à-dire que le Barça a recruté un peu raciste.
On dit Braithwaite, nous aussi, ici. Donc, Martin Braithwaite est la nouvelle recrue des Blaugrana. Il n'a pas attiré les foule dans le stade hier, juste une nuée de journalistes venus le voir de près lorsqu'il a revêtu le maillot des Blaugrana. Mais l'international danois, lui, était tout à son rêve, se laissant porter par son destin. Écoutez-le.
I'm really happy to be here. I think as a
Je suis très heureux d'être ici, rejoindre le plus grand club du monde. C'est la meilleure chose qui puisse arriver à un footballeur. C'est motivant pour moi, c'est motivant pour ma famille. Je suis impatient, j'ai été surpris sur le moment, mais en même temps, je ne l'étais pas tant que ça, parce que ça fait longtemps que ce club est dans un coin de ma tête. Je pense que quand on travaille dur, que l'on croit en soi et que l'on est positif, alors les choses se produisent. J'étais aussi un peu surpris sur le coup, mais c'est le destin, donc je suis très content.
It was meant to be, so I'm really happy.
Eh oui, le destin. Alejandro Valente, comment, dans le destin du FC Barcelone, qui compte quand même dans ses rangs Messi, Griezmann, et dans l'infirmerie Suarez et Dembélé, des internationaux, champions dans diverses catégories, on va dire, et même un champion du monde, donc, il peut avoir fait signer cet ancien joueur de Toulouse, de Bordeaux et donc de Leganés?
Bah, c'est un peu un concours des circonstances. C'est-à-dire que Barcelone a eu la mauvaise idée cet hiver d'essayer de lester d'un certain nombre de joueurs dont il estimait ne pas avoir besoin, parmi eux l'attaquant Carlos Garcia qui est parti à la Roma. Et quelques jours après, il y a Dembélé qui se blesse, il y a Suarez qui se fait opérer, etc. Ils se rendent compte que finalement, ils ont un manque d'attaquants en particulier. Et le mercato étant clos, la Liga offre une possibilité aux clubs espagnols qui ont un blessé pour 5 mois ou plus, c'est de pouvoir le retirer de leur liste et de recruter un joueur pour le remplacer en championnat uniquement. Et la seule condition importante, c'est que le joueur doit déjà évoluer dans les championnats espagnols. Évidemment, ils ne pouvaient pas aller chercher un attaquant du côté du Real Madrid ou de l'Atlético Madrid. Donc, ils ont plutôt...
L'Atlético ont cherché, d'ailleurs.
Ils ont plutôt fait une recherche dans le club du bas du classement. Et Braithwaite faisait partie des candidats possibles. Et ils ont décidé de payer la clause, ce qui oblige les Leganés à le vendre, à les laisser partir, mais qui met quand même dans l'embarras cette équipe, tout d'un coup, qui perd son principal attaquant.
Alors, on va y revenir sur l'embarras de Leganés, mais d'abord, Xavier Barré, on se dit... alors, il y a un site avec des confrères qui ont fait un petit article ironique aujourd'hui en disant les 10 transferts les plus improbables. Est-ce que, pour vous, celui de Braithwaite au Barça est improbable?
Ah bah, c'est tout à fait inattendu. Effectivement, souvenez-vous, il y a 2 ans, il était encore à Toulouse, qui
était d'ailleurs mieux.
Oui, mais c'est un très bon joueur, mais c'est pas un joueur pour le Barça. Il est parti ensuite en Angleterre. Là, il était à Leganés. C'est un joueur. Il est international danois. Il sera peut-être à l'Euro d'ailleurs. C'est un bon joueur de complément. C'est un joueur de club de milieu de tableau, mais c'est pas un joueur pour Barcelone. En fait, c'est plus une question de circonstances qui l'ont amené au Barça qu'une réelle volonté de la part du club catalan de le faire venir. En fait, il bouche un trou et surtout il révèle à rebours les faiblesses du Barça en ce qui concerne le recrutement. Et c'est vrai que ces dernières années, depuis en gros le départ d'Aitor Beguiristain en 2010 à Manchester City, se sont succédés 3 directeurs sportifs sur le banc du Barça. Andoni Zubizarreta qui est maintenant à Marseille, Roberto Fernandez et puis maintenant Eric Abidal. Et aucun des 3 n'a vraiment su anticiper ce qu'il fallait au niveau des transferts. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'argent gaspillé et beaucoup de déchets.
On se souvient par exemple de Malcolm, le Brésilien qui était parti de Bordeaux au Barça et qui a si peu joué. Je crois qu'il avait joué surtout lors d'un classico, mais c'est vrai que il est resté très peu de temps.
Habib, à la limite, Malcolm, il était jeune par rapport à Braithwaite et il pouvait
il
encore
ans,
avoir une marge de progression que n'a pas ce joueur danois, qui est un excellent joueur, encore une fois, de club des milieux de tableau.
Habib, en plus, le problème, on connaît le Barça, et surtout Quique Setién a été appelé pour cela à la place de Valverde, c'est un certain style de jeu. D'ailleurs, Setién aujourd'hui l'a déclaré, il n'y a pas longtemps, il va falloir qu'il intègre certaines notions évidemment du jeu barcelonais, même s'il est dans le groupe pour le match du week-end. Mais que peut apporter un joueur comme celui-là?
Mais il peut être une bonne surprise, on ne sait pas. C'est vrai que ce transfert apparaît comme quelque chose d'assez rocambolesque au vu de la carrière du joueur et de ce qu'il représente. Mais il a mis 6 buts avec Leganés, là où Griezmann n'en a mis que 8 avec le Barça, par exemple. Donc moi, je veux bien. Aujourd'hui, on lui tire dessus, on dit que c'est catastrophique, mais peut-être que ce que n'arrive pas à faire Griezmann dans ce poste d'attaquant, peut-être que lui peut le remplir. Il a marqué 6 buts avec Leganés, avec une équipe comme le Barça où il sera mieux servi, peut-être qu'on peut être bien surpris d'un joueur comme celui. Alors, bien sûr qu'il ne va pas s'inscrire dans la durée, parce que lorsque vous avez des Suarez qui vont revenir, on espère un jour voir Dembélé revenir à un très très bon niveau, même si ça sera dans très longtemps, puisqu'il est blessé pour Lautaro Martinez, qui est une cible pour le Barça.
Voir Neymar, que Messi veut revenir.
Oui, mais et puis en plus, aujourd'hui, alors ce qui est surprenant, c'est la clause, ce qui est surprenant, c'est la longueur du contrat. 4 ans et demi, la clause 300 millions, c'est ça, Raphaël, même si ce sont des clauses pour se protéger. Bon, c'est 18 millions d'euros. Il n'y avait personne d'autre sur le marché, en quelque sorte, pour le Barça. Donc, à partir du moment où ils voulaient quelqu'un, ils se sont renseignés sur l'attaquant de la Real Sociedad, je crois, mais ça n'a pas pu se faire puisque la Real Sociedad demandait comme 40 millions d'euros. Oui, voilà. Donc, ils ont pris ce qui était le plus accessible sur eux, pour eux, à travers leurs finances. Et leurs finances, c'était 18 à 20 millions d'euros. Donc, ils ont pris Bryce Weiss. Moi, j'attends parce que j'ai pas envie de me prononcer sur un joueur qui pourrait être une mini bonne surprise en l'absence de Suarez sur un délai très court, sachant que si aujourd'hui on est dur avec Bryce Weiss, il faudra l'être aussi pour Griezmann qui n'a mis que 8 buts aujourd'hui au Barça en 23 ou 24 matchs. Donc,
Il ne pourra pas jouer en Ligue des Champions, uniquement en championnat.
Oui, oui, puisque c'était hors mercato.
Mais oui, c'est étrange quand même.
C'est quand même étrange. Rémi, j'imagine que pour vous, ça illustre les questions qu'on se pose autour du FC Barcelone de ces derniers temps.
Incompétence managériale, improvisation à outrance, amateurisme inconséquent. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on me parle, comme j'écoute Habib Bey qui veut me faire comprendre qu'il faut donner la chance à un joueur de 30 ans, je dis bien, il a 30 ans. C'est comme Jérémy Mathieu qu'on avait aussi recruté au Barça à 30 ans, on lui a donné de la chance. Et chaque fois, c'est comme Arda Turan qu'on avait. On l'avait recruté à 30 ans. Et on a bien vu à quoi il sert au Barça, lui qui a été acheté quand même à 34 millions et demi. Donc aujourd'hui, je reviens sur Brad Wade. C'est-à-dire que voilà un joueur qui, on me dit, il était à Toulouse. J'essaie de regarder ses statistiques en 136 matchs, ça fait 35 buts, 108 buts par saison. 8 par saison. Maintenant, il part de Toulouse, il se retrouve quand même.
Là, il en a déjà marqué 6 en 24 matchs. Hein,
attendez,
depuis le début de saison,
il va à Middlesbrough. Ça, c'est une équipe de deuxième division en Angleterre. Il échoue là-bas. Et puis, il revient en France. Il revient en prêt en France. C'était à Bordeaux. Il échoue à Bordeaux. Le voilà qui part maintenant, on me dit, voilà c'est un joueur qui, parce qu'il a marqué 6 buts avec les Ganes qui est en train de lutter pour la survie et d'ailleurs qui va descendre, on me dit, il peut apporter quelque chose au Barça. Je vais vous dire une chose, Zlatan Ibrahimovic a été recruté en 2009, n'a pas pu s'intégrer même au Barça. Bien que le Barça
ait... Là, 34 ans ou 36 ans, il est très bien à Milan.
Voilà, il n'a pas pu. Alexis Sanchez, 34 millions. Zlatan a coûté 75 millions et il fallait encore venir. On a donné encore Eto'o comme cadeau. Il n'a pas pu. Et maintenant, on me dit que ce joueur...
Rémi, c'est pas du tout le même cadre.
On me dit que ce joueur...
Ils ont pas recruté une star.
Joueur, mais attendez...
Ils ont recruté un joueur pour boucher un trou, comme l'a dit Habib.
Mais ce n'est pas possible. Comment est-ce que vous pouvez laisser Carlos Pérez... Vous le vendez. Il a 22 ans.
Carles.
Vous le vendez.
Et il a marqué.
À combien? 15 millions. 15 millions d'euros.
Et il a marqué.
Et par la suite, vous recrutez un vieux joueur. Mais Rémi, à 18 millions d'euros.
Rémi, on vous a expliqué pourquoi. Parce que Dembélé n'était pas encore blessé au moment
attendez,
où ils ont vendu
vous
Carles.
Vous venez de pleuvoir. Et en football, on le prévoit. Tout le monde a vu Erling Haaland qui était disponible pour le Barça. Que ce soit la saison dernière ou cette saison. C'est Dortmund qui l'a recruté. Et finalement, on le sort avec Brad Wade. On dit, alors qu'ils avaient même Bakambu. Annie, je te pose une question. Entre Bakambu et Brad Wade, c'est-à-dire que vous faites venir Bakambu et vous faites rentrer Bakambu en disant que vous allez recruter mieux. Et on nous sort Brad Wade. Mais il y a un proverbe africain qui dit vous avez beau cacher l'âne, il finit par monter ses oreilles.
Mais là tu analyses le contexte global. Là, maintenant, on doit analyser le fait qu'il est au Barça. Ça y est, c'est pas de dire pourquoi ils l'ont pris, est-ce qu'ils l'ont pris, qui sont venus à la place de qui.
Surprise.
C'est que maintenant, il est là. Mais qu'est-ce qu'on se dit maintenant qu'il est là?
Je dis juste
aujourd'hui qu'il faut être patient dans le sens où peut-être que, et je ne suis pas devin, peut-être qu'il peut être une mini bonne surprise d'ici la fin de saison. Je ne sais pas. Moi, je n'ai aucune idée. Si vous me demandez, je ne sais pas.
Je ne sais pas ce qu'on peut attendre. Ils le prennent pour être efficace tout de suite, au moins en championnat.
Il y a eu l'histoire Bakambu qui était quand même assez sidérante de cette fausse. Il s'est peut-être emballé, le joueur Bakambu, mais en tout cas, il y a eu cette espèce de rumeur et tout. Et là, on se retrouve avec Bryce Wade.
Finalement, c'était pas plus ridicule. Si on parle de la gestion du Barça.
Voilà.
elle est douteuse. Mais... Maintenant, si on parle du joueur qui arrive, moi, j'attends. Parce que si concrètement, dans un mois, il vous a mis 10 buts, on dit quoi ?
Bien sûr. Alors, Alejandro...
Le débat passionne beaucoup nos auditeurs. D'ailleurs, beaucoup donnent raison à Habib. Il y a même Domenech Koné qui dit qu'il l'a suivi à Toulouse et que c'est un super joueur. Il y a Pablo qui parle du futur Suarez. Beaucoup d'autres sont beaucoup plus sceptiques.
Il a même été recruté à 27 ans.
Et il y a même Daouda Diakité qui dit.
Lui, à 30 ans, sera le futur.
Daouda Diakité dit : je suis un bon numéro 9, je suis libre. Barcelone est ma vie.
Beaucoup d'humour. Alejandro, justement, quand même, ce que dit Habib, c'est que certes, on va voir ce que ça peut donner, mais. En plus des errements peut-être de recrutement du FC Barcelone, mais c'est la législation du football en Espagne qui leur a donné la possibilité de faire cela, et c'est un horrible cadeau pour les Ganesses.
D'ailleurs, la FIFA est un peu effrayée par ce qui s'est passé en Espagne, et ils veulent éviter qu'à l'avenir cela puisse continuer à se produire comme ça, parce que les Ganesses, qui n'ont rien demandé à personne, tout d'un coup, voit partir un de ses meilleurs éléments, alors que...
Évidemment, à part ça, le mec n'a pas dit non.
Il y a Javier Aguirre, l'ancien sélectionneur de l'Égypte, qui vient d'arriver, qui a remis un petit peu l'équipe sur les rails et qui commence à obtenir des résultats. Et du coup, les Ganesses ont dit à la Ligue, on nous pique notre joueur, est-ce qu'on peut recruter quelqu'un pour le remplacer ? Ils disent, ah non, parce que vous n'avez pas de blessé, vous n'avez pas le droit. Donc, c'est très injuste.
Ils ont cassé la jambe d'un de leurs joueurs. Non, mais c'est vrai que c'est ahurissant, ce règlement, c'est n'importe quoi. Et c'est d'autant plus n'importe quoi que ça survient 15 jours après la fermeture du mercato.
Oui.
Ça veut dire que le Barça, alors même si on dit que Dembélé s'est blessé dans l'intervalle, avait tout lieu de pouvoir... anticiper une éventuelle...
Mais on pensait qu'ils voudraient remplacer Suarez au départ.
Mais ils ont eu qu'ils ont eu des propositions. Vous évoquiez le cas de Bakambu tout à l'heure. Il y a eu Paco Alcácer, dont Dortmund ne voulait plus et qui connaît le Barça, qui était prêt à revenir. Ils ne l'ont pas repris. Non, il y a quand même une gros manque au niveau de la gestion de l'effectif de la part des Blaugrana sur cette
affaire. Ça va faire exploser les clauses libératoires, puisque c'est en l'occurrence ce qu'a fait le Barça avec 300 millions. On sait qu'il ne vaudra jamais 300 millions. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les Ganesses, maintenant, ils vont faire signer un joueur, ils vont se dire, si on peut se faire piquer, on va mettre un mec à 50, 60, 70 millions, parce que c'est la problématique d'aujourd'hui.
En tout cas, le Barça jouera donc demain au Camp Nou à 16h en recevant Eibar qui n'est pas aussi bas que les pauvres de Leganés, mais qui est quand même
il
déjà
va jouer,
16e au classement. Il est dans le groupe.
Et s'il joue, il va marquer, je vous
mais
le dis.
Mais il a dit qu'il ne serait pas titulaire quand même.
Ouais, mais s'il rentre, il va marquer, vous allez voir.
De toute façon, ils vont le faire non, jouer.
C'est,
on lui
c'est
souhaite,
toujours
Habib.
La chance du débutant, Annie. Vous connaissez, quand vous allez au casino la première fois, vous gagnez.
Vous savez, la vidéo, dommage, je ne peux pas. Je vais poster ça après l'émission. Franchement, ce mec, quand je l'ai vu, j'ai dit, pourquoi est-ce qu'on ne va pas recruter. J'ai vu Brentwood, il est devant le gardien, il veut tirer. Le gars tire sur la pelouse et il ramasse toute la pelouse, même le gardien avait pitié de lui.
Voir,
mais
Rémi,
c'est pas possible.
Dans 10 jours à Bernabéu.
Mais c'est un taureau.
C'est un taureau.
J'ai dit
non, mais faut souhaiter pour le Barça qu'il marque en championnat, puisqu'il a été recruté pour ça.
Et ce, on ne peut pas lui souhaiter du mal. Regardez, quand on le voit, il est tout seul. Il n'y a personne qui est venu le voir jongler. C'est horrible, en fait. L'image, on a envie de lui souhaiter du bien. En tout cas, moi, je veux le voir marquer.
Brentwood, on te souhaite bonne chance.
Champion. Hein. Il ne pourra pas jouer. Et
surtout, j'aimerais qu'il soit titulaire lors du Classico. Au moins, le Real va jouer à 10 contre 11.
Ramos va s'énerver.
On en parle.
Le Real jouera, lui, demain soir, puisque les deux équipes, hein, vous le savez, jouent en Ligue des Champions la semaine prochaine, et ça sera contre Levante. On continue. Idole des supporters des Blues, il est sûr que José Mourinho n'aura pas cet accueil en chanson demain après-midi de la part des supporters de Chelsea, car malgré les promesses qu'il avait faites, on vous en avait parlé il y a quelques semaines, et bien il est passé du côté adverse, à la tête désormais de Tottenham, José Mourinho, et il viendra avec les Spurs pour tenter de prendre à Chelsea la 4e place de la Premier League. Un match capital parce que, vous le savez, les 3 autres places sont à peu près octroyées. Liverpool, l'intouchable, premier. Manchester City, alors évidemment, on ne sait pas ce que donnera la bataille juridique autour de son exclusion pour l'année prochaine. En tout cas, pour l'instant, ils sont deuxièmes. Ils ont 13 points d'avance sur le quatrième. Et puis, on a Leicester City qui a 9 points d'avance sur les Blues. Alors, de ce match, eh bien, en plus, il arrive dans un drôle de calendrier européen. Tottenham a joué et perdu face à Leipzig durant la semaine, alors que Chelsea accueillera d'autres Allemands sur sa pelouse, peut-être avec plus de bonheur, le Bayern Munich, ça sera mardi soir. Écoutons José Mourinho, lui, il ne perd pas de vue ce contexte tout à fait spécial.
J'aimerais beaucoup que ce soit déjà le 1er juillet, déjà la saison nouvelle, mais ça n'est pas le cas. Nous ne sommes que le 19 février. Il faut se battre jusqu'à la fin et je suis très fier de mes joueurs. Quand je suis arrivé, nous avions 12 points de retard sur le 4e. Maintenant, nous n'avons plus qu'un point de retard. Nous allons continuer à nous battre. Mais les joueurs de Chelsea ont regardé notre match contre Leipzig à la télévision, au repos, avec de l'eau gazeuse, des citrons et des biscuits. Et demain, nous serons face à face. Vraiment, merci beaucoup de ce calendrier.
Habib, vous, le futur entraîneur, comment vous réagiriez? Parce que c'est vrai que ce calendrier, il est un peu bizarre. Il y en a un qui a des jeux à jouer, l'autre qui va jouer. Hein. On imagine qu'il essaye de se préserver, l'autre qui est à la chasse à cette quatrième place. En même temps, on a des blessés un peu des deux côtés. N'Golo Kanté d'un côté et puis Son de l'autre qui s'ajoute à Harry Kane.
Mais vous savez, je n'ai aucune empathie pour tous ces entraîneurs parce que déjà, je ne le suis pas. Peut-être que le jour où je le serai, j'aurai de l'empathie pour mes joueurs. Là, j'en ai pas parce que je pense qu'ils ont des effectifs XXL bâtis à coups de millions d'euros et que je trouve que c'est trop facile de venir se réfugier derrière ce genre de choses. Tout le monde joue beaucoup, que ça soit Chelsea, Tottenham. Alors, peut-être que Tottenham a plus joué que Chelsea. Il a raison d'appuyer là-dessus parce qu'en quelque sorte, il décharge un petit peu ses joueurs en disant « Oui, je sais que vous êtes fatigué après le match de Leipzig. » C'est peut-être aussi pour lui un levier. Donc, j'ai pas d'empathie par rapport à ce discours-là. Il est naturel de la part d'un entraîneur parce qu'on sait qu'il l'utilise. Hein. Même Klopp le dit. Hein. Klopp dit que son équipe trop et pourtant son équipe gagne. Mais c'est le discours de tous les entraîneurs. Donc, sur ça, pour moi, ça n'a pas trop d'importance. Ce qui est sûr, c'est que ils ont été en immense difficulté contre Leipzig, surclassés pendant 90 minutes. Pour moi, ils ont 10 minutes dans le match.
90 minutes ?
Mais bien sûr que oui.
Mais
bien sûr que oui. Ils ont été surclassés par une équipe qui, à la base, est ordinaire dans l'effectif. Pendant 80 minutes.
Ah, bon, mais là, on change, hein.
Non, j'ai dit surclassé pendant 90 minutes. J'ai dit Tottenham a eu 10 minutes. Si aujourd'hui, t'as le temps, on va regarder le match ensemble. Je l'ai regardé de bout en bout. Je t'ai dit que pour moi, ils ont été surclassés en termes de jeu, surclassés en termes d'intensité par une équipe qui a des joueurs ordinaire à pas Timo Werner. Cite-moi aujourd'hui d'emblée 5 joueurs de Leipzig.
Ok, on y va.
Allez.
Monsieur, je voulais déjà vous dire que surclassé.
Allez, les gens.
Oh là 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 là. Je voulais vous dire.
C'est le quiz.
Je voulais vous dire.
Il se défausse.
Lorsque vous me dites ça, je vous dis. Tottenham en question. Lorsque vous enlevez Harry Kane, lorsque vous enlevez Son, Eriksen qui était le dépositaire et qui boudait déjà, qui est parti bien évidemment de l'autre côté, comme vous le savez très bien à l'Inter. Lorsque vous avez l'équipe de Tottenham, eh bien citez-moi les super grands joueurs. Donc moi je vais vous dire, Leipzig, par contre, c'est une équipe qu'on a vue, que ce soit en championnat, en Allemagne. Vous avez pu voir comment est-ce que le troisième du championnat d'Allemagne a eu à malmener le Paris Saint-Germain. Et là, vous n'avez pas parlé. C'était le troisième. Et là, vous me parlez d'une équipe, par exemple.
Attendez, j'ai répondu à la question, c'est-à-dire que Tottenham a été dépassé par Leipzig.
Mais ils n'ont perdu que par 1-0. Liverpool n'a pas cadré un seul tir contre Atlético.
Mais ils ont perdu chez eux.
Mais attendez, qu'est-ce que vous savez dire?
Mais aujourd'hui,
en Ligue des Champions, il n'y a pas être battu chez soi. La preuve, c'est que le Paris Saint-Germain, après avoir battu Manchester United à l'extérieur, est tombé au Parc des Princes.
Tes arguments ne tiennent pas. Tottenham est finaliste de la Ligue des Champions.
C'est vice-champion. Et Tottenham est
vice-champion d'Europe. Maintenant, Leipzig, première participation à 8e de finale de Ligue des Champions.
Quand Tottenham, que vous dites qu'est vice-champion, est-ce que vous savez que le Real, qui était champion justement, avait été sorti par Ajax d'Amsterdam?
Non, je te dis juste
est-ce que
Leipzig.
Vous savez par exemple que Tottenham a été 14e quand José Mourinho arrive?
Mais il faut laisser ça. On ne parle pas de Mourinho, on parle du fait qu'ils ont été surclassés.
Allemande, on peut parler de Mourinho aussi. Ligue des champions, Europa League.
Mais c'est 7 sur 7.
7 sur 7, les équipes allemandes. C'est qui s'est dit que le championnat allemand aujourd'hui.
Tu ne réponds pas à la question. Tu fais un monologue, tu ne réponds pas à la question. La question que je te pose, la question que je te pose, est-ce que Tottenham a été surclassé par Leipzig?
Mais pardon?
Est-ce que Tottenham, en Ligue des Champions sur ce match-là, a été surclassé par Leipzig, toi qui as regardé le match?
Mais je t'ai dit une seule chose, c'est que tu as dit 90 minutes et j'ai dit non. Et la preuve, les statistiques sont là. Les statistiques, c'est quoi?
Il a dû voir que les 10 dernières minutes du match.
Attendez. 5 tirs cadrés.
Est-ce que tu as vu le match du Golioris?
Le premier match, je vais vous dire une chose. Hein.
Non mais Rémi, on ne va pas parler.
Pourquoi est-ce que vous ne me voulez pas que je donne les statistiques?
Parce que ça fait 5 minutes que vous ne répondez pas à la question.
C'est pas tout les statistiques.
15 tirs pour Tottenham, 5 tirs cadrés pour Leipzig, 5 tirs cadrés pour Tottenham. C'est vrai que Tottenham a été bouffé à la première mi-temps, mais à la deuxième mi-temps, lorsque José Mourinho a essayé de refaire sur le plan tactique, vous avez vu que le gardien de Leipzig a effectué 5 arrêts en 30 minutes.
En fin de match, effectivement, ils ont fini très fort, ils ont failli égaliser, mais ils se sont fait bouffer l'essentiel de la partie.
Merci.
Faut pas dire que pour regarder le match.
Mais après, tu sais, je suis pas anti Mourinho, mais Nagelsmann sur ce match-là, pour moi, en termes de football, a produit du meilleur football. Et il faut pas oublier qu'ils l'ont produit à Tottenham, à Londres. Ouais, ils gagnent 1-0 à Londres avec une équipe. Moi, je vous le dis, Leipzig aujourd'hui, quand tu regardes l'effectif de Leipzig en Ligue des Champions, c'est comme l'Atalanta Bergame. C'est un effectif ordinaire. La seule star de cette équipe, c'est Timo Werner. Après, si je te demande, cite-moi 5 joueurs de Leipzig, je suis pas sûr que tu me les cites.
Et quels sont les grands joueurs de Tottenham?
Non mais Tottenham, c'est les finalistes de la Ligue. Même s'ils ont perdu avec Kane.
C'était vous-même.
Mais
Lucas, Alderweireld, Vertonghen, Sergent. Mais attends, Lucas Moura, Hugo Lloris, champion du monde.
Mais
ne compare pas l'effectif de l'ASC avec celui de Tottenham. Sois honnête à un moment donné. Tu peux pas comparer les deux effectifs.
Dans ce cas, si vous voulez comparer les deux effectifs.
Tu peux pas comparer le budget non plus.
Non, maintenant, il y a un élément qui a été évoqué tout à l'heure.
Sur le match de demain.
Le calendrier. C'est qu'effectivement, José Mourinho, il dit les joueurs de Chelsea étaient dans le canapé en train de manger des chips pendant que nous on jouait. Les joueurs de Chelsea, eux, ils ont ce match de Coupe d'Europe à préparer aussi dans un coin de leur tête, puisque jouer contre le Bayern en Ligue des Champions, ça, c'est un rendez-vous très important. Alors que ceux de Tottenham, maintenant, j'allais dire, ils sont débarrassés pour 3 semaines de la Ligue des Champions. Ils auront ce match retour à Leipzig avec peu de chances de qualification, mais on ne sait jamais. Alors que Chelsea, là, ça se joue la semaine prochaine. Donc moi, je ne suis pas sûr que le fait de devoir jouer 2 matchs très importants l'espace de 3 jours, ce soit un handicap pour... ce soit un avantage pour Chelsea. Je pense qu'au contraire, ils vont avoir l'idée de bien négocier ce match, mais surtout derrière, d'être aussi opérationnel et donc pas blessé pour le match de Ligue des Champions.
Alejandro ?
Moi, je trouve que Mourinho, qui a l'habitude de se défausser un petit peu, n'arrête d'invoquer les joueurs blessés qu'il a dans ses rangs, et c'est important, mais Chelsea a beaucoup de blessés aussi. On a parlé d'N'Golo Kanté, il y a Pulisic qui est blessé, il y a Christensen qui est blessé, il y a Tammy Abraham qui est sur une jambe, etc. Donc ça aussi, c'est des handicaps importants et Lampard les aggrave en prenant des décisions parfois un peu polémiques, comme la mise à l'écart du gardien espagnol.
Et puis Mourinho, quand il dit qu'il a repris 11 points, il a repris 11 points à Chelsea, mais les autres ont continué à avancer. Il a toujours 10 points de retard sur Leicester. C'est Chelsea qui a perdu des points. Alors, ce qu'il a fait, Mourinho, c'est bien, mais il a récupéré une équipe qui a le potentiel pour être dans les 4 premiers du championnat. Donc, c'est bien ce qu'il fait.
Qui était 14e,
mais c'est pas normal qu'il soit 14e.
Ah, voilà.
Donc, c'est normal que de 14e, tu remontes avec une équipe comme Tottenham.
Pochettino, que tu félicites tout le temps. Pochettino, il a fait une finale de Ligue des Champions.
J'ai été finaliste, mais je n'ai jamais gagné le trophée.
S'il vous plaît. Juste une chose, Xavier. Donc, pour cette troisième place, en tout cas, pour cette quatrième place, qui est la dernière dans le championnat anglais, théoriquement libre pour la Ligue des Champions, c'est évidemment très important pour ces deux équipes.
C'est d'autant plus important qu'il y a un vrai antagonisme en plus entre Chelsea et Tottenham. Surtout depuis la saison 2016, l'année où Leicester est champion, où Tottenham peut encore être champion et finalement ils perdent à Chelsea à plus de 3 ou 4 journées de la fin et du coup leur rêve de titre, leur rêve de rattraper Leicester s'envole. Donc depuis, il y a eu de vraies batailles entre ces ces deux formations. Et là, le fait qu'en plus, il y ait Mourinho d'un côté et donc Lampard de l'autre, mais que Mourinho revienne là comme ça face à son ancien club où il a son ancien joueur où il a plus le, il a, vous l'avez bien fait de le souligner, il aura pas le même accueil que la première fois qu'il est revenu avec Manchester United, parce que depuis, on a tourné la page à Chelsea. Ça peut
surtout,
être
ils n'ont pas aimé qu'il aille à Tottenham, parce qu'encore à Manchester.
Bien sûr, c'est un très très gros match avec.
Pour le perdant, il y a beaucoup d'équipes qui arrivent derrière, comme Sheffield United, Manchester United, etc.
Wolverhampton,
ça peut dégringoler.
Autre match prometteur en Angleterre, en tout cas sur le papier, c'est Arsenal-Everton, deux clubs qui ont récemment changé d'entraîneur. Mais on verra ça lundi lorsque les équipes auront joué, parce qu'on a encore de l'actualité.
Ibrahim Camara s'est vu confier les rênes de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire le 30 juin 2018. Il est remercié 20 mois après. Les deux parties ont décidé d'un commun accord de mettre un terme à leur collaboration à compter de ce 20 février.
Camara ne sera donc resté que 20 mois à la tête de l'équipe de Côte d'Ivoire. Le sélectionneur des éléphants, qui avait pris la suite du Belge Marc Wilmots, a été remercié hier soir à Abidjan. Et si c'est d'un commun accord, en tout cas, c'est lui qui doit partir, alors que son contrat courait jusqu'à la fin du mois de juin prochain au moins. Alors ses oreilles, surtout, elles avaient dû siffler depuis le comité exécutif du 13 février, puisqu'apparemment les informations disent que son cas avait été évoqué et que déjà on évoquait une insuffisance de résultats. Son bilan a été jugé négatif. Habib, on lui reproche ou reprocherait aussi des comportements irrévérencieux avec certains interlocuteurs. En fait, ce qui interroge, c'est que on se souvient au moment de la CAN, déjà, il y avait beaucoup de critiques contre Camara. Ensuite, il y a eu deux matchs de qualification pour la prochaine CAN de 2021. Et alors, il y a eu un match gagné contre le Niger, mais par contre, c'était en novembre, le match perdu en Éthiopie. Et depuis, il s'était rien passé. Là, on est à un mois d'une rencontre sans doute capitale pour une qualification contre les Bareas. Ça sera d'abord à Abidjan et ensuite à Tananarive, hein, fin mars. C'est pas une drôle de décision pour ce qui est du timing.
Si, c'est une drôle de décision, mais ce que je veux dire, parce que je me suis rendu en Côte d'Ivoire à l'époque, juste avant la CAN, je crois qu'il n'a jamais eu l'adhésion de qui que ce soit au pays. Et on a souvent en fait revendiqué le fait qu'il faille des entraîneurs africains, locaux, ivoiriens au sein d'une sélection ivoirienne, sénégalais au sein d'une sélection sénégalaise. Mais on se rend compte que lorsque ça arrive et qu'ils ont des difficultés, ils sont pas du tout appuyés. Ils sont presque autant critiqués, voire plus critiqués que lorsque c'est un sélectionneur qui vient éventuellement de l'étranger. Après, le timing, il y a eu l'affaire Gervinho aussi, qui a été un vrai problème au sein de cette sélection ivoirienne, puisque lui, il décidait de ne pas sélectionner. Tout le monde pense... aujourd'hui en Côte d'Ivoire que Gervinho devrait être en sélection. Je ne sais pas si c'est un choix pour lui qui a pesé en sa défaveur. Ce qui est sûr, c'est qu'il a dû se passer quelque chose pour qu'on décide là maintenant de s'en séparer. Peut-être un problème justement relationnel entre la fédération et lui. Peut-être que en prévision de ces deux matchs, il avait déjà éventuellement évoqué avec sa fédération les joueurs qu'il allait prendre et ne pas prendre. Je vous avoue que je suis pas du tout au courant de ces discussions, donc je ne juge que ce que je sais. Et ce que je sais, parce que j'y suis allé en Côte d'Ivoire, les journalistes ivoiriens à ce moment-là n'avaient pas forcément beaucoup d'espoir sur la durée avec ce sélectionneur. Il n'était pas forcément appuyé, pas forcément de passé, de légitimité pour être là en termes de trophées et de palmarès. Mmh. Donc voilà, la aujourd'hui, cohésion. Je vous avoue, je suis pas trop surpris par la décision puisque ça a
mais
jamais
c'est
été.
Le moment où elle intervient, oui, on se souvient au moment de la CAN, on avait cru que ça arriverait. Rémi, est-ce que ça ajoute finalement peut-être pour la Côte d'Ivoire une embûche sur la route de la CAN 2021, parce qu'on se souvient de la dernière CAN de la Côte d'Ivoire qui était pas magnifique, qui se font sortir assez tôt ou trop tôt sans doute pour les Ivoiriens, et maintenant par rapport à leur groupe K là avec le Niger, l'Éthiopie et Madagascar, on connaît la dynamique sur laquelle sont les Bareas actuellement.
Je crois quand même que là, il y a un vrai problème, c'est qu'on ne laisse pas aussi beaucoup de possibilités aux entraîneurs, aux sélectionneurs africains de pouvoir préparer du terrain. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le dites, il n'y a pas que la CAN.
Il y a deux ans quand même.
Non, mais il a toujours été utilisé comme une roue de secours.
Oui.
C'est-à-dire que quand
Hervé
Renard s'en va, en 2000, quand il démissionne en 2015, c'est Camara qu'on appelle. Il dit, après, on dit, tu ne peux pas continuer. On va appeler Marc Wilmotte. Marc Wilmotte, il signe un contrat, je crois qu'en mars 2017, et c'est pour 2 ans.
Oui,
et puis finalement, il fait 7 matchs. On dit à Camara, tu reviens. Bon, Camara revient, il essaie de faire quelque chose,
donc
puis on attend jusqu'en 2018. C'est la faute des dirigeants, parce que si vous ne donnez pas la possibilité, si vous ne voulez pas jouer les boucliers, parce qu'aujourd'hui, on veut présenter le bilan qui est négatif, mais on oublie que la Côte d'Ivoire a payé cher pour Marc Wilmotte, qui n'a vu qu'une seule victoire en 7 matchs. Mais par contre, Camara, on
déjà
a vu
à la
comment
CAN 2021.
Est-ce qu'il posait déjà et posait quand même. Quand vous regardez le match que la Côte d'Ivoire livre contre l'Algérie qui va devenir championne d'Afrique, c'est la Côte d'Ivoire qui a le plus menacé encore cette équipe algérienne-là. Il avait la possibilité
de pouvoir
reconstruire. Et même quand on parle de Gervinho, c'est parce que Gervinho avait critiqué la fédération. On utilise Camara comme un bouclier, comme un fusible, voulais-je dire.
Donc ça
et puis finalement, après, on dit non, c'est lui qui a pris la décision.
Mais
donc
ça...
pour moi aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, qui doit rencontrer surtout pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, est dans la même...
Vous savez qu'ils ont inversé.
Aujourd'hui, on va dire que c'est Camara qui part. On va trouver. Ils n'ont même pas trouvé encore un entraîneur. On va encore dire ceci et cela. Mais attendez.
C'est un peu faussé. C'est un peu faussé cette situation parce qu'il y a des élections aussi à la fédération ivoirienne. Donc.
On ne sait pas quand est-ce qu'il y aura des élections. Hier, le président a dit qu'il ne serait pas candidat à sa succession.
Donc, il va y avoir un successeur a priori.
Oui.
À
mais
le poste, après, la problématique, c'est que lorsque vous êtes ces nations-là, de toute façon. Côte d'Ivoire, Algérie, Cameroun, Sénégal, toutes ces grosses nations africaines.
On a quand même laissé Aliou Cissé peu de temps.
Non mais Aliou Cissé, c'est qu'à un moment donné, c'est un choix de la fédération, Rémi. C'est que la fédération a choisi depuis maintenant 5 ans de lui faire confiance. Peu importe les résultats, ils estiment que cette sélection progresse. Il a fait 2017, quart de finale, éliminé par le Cameroun. 2019, finale. Il y a le premier tour sorti en Coupe du Monde. Mais ils estiment que le Sénégal a donné un bon visage. Donc, ils lui donnent confiance. Je te dis pas qu'aujourd'hui, c'est logique que Camara soit sorti. Je dis juste que il n'a jamais été vu comme le sélectionneur numéro un emblématique. Donc, il était toujours en fait dans ce positionnement un petit peu compliqué. Moi, je trouve qu'il a fait du très bon travail. T'as raison de dire que la Côte d'Ivoire est l'équipe qui a le plus en difficulté et encore plus que le Sénégal. L'Algérie pendant cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais voilà, c'est le problématique de positionnement et d'aura peut-être.
Alejandro, des commentaires sur ce sujet.
Il y a pas mal de commentaires. Beaucoup sont d'accord avec Rémi en disant qu'il a servi des boucliers aux dirigeants. Mais il y a peu d'auditeurs pour défendre quand même les bilans des camarades. Charles Kwame, par exemple, l'appelle coach Kamso. Il dit qu'il a fait régresser l'équipe des Côte d'Ivoire.
En tout cas, il y a aussi sans doute, et on y reviendra à un moment, un problème ou un fait qui est le fait générationnel, comme on en parle souvent. En attendant, le coup d'envoi du CHAN sera donné dans 6 semaines en Afrique, au Cameroun, bien sûr. Ça sera un match Cameroun-Zimbabwe, Rémi. Ça sera le 4 avril à Yaoundé. Le Maroc va remettre en titre le trophée glané lors du dernier CHAN. J'aimerais vous demander, Ariane, pour un pays, le Rwanda participe. Le Rwanda est dans le groupe C, donc il est avec le Maroc, qui est le tenant du titre, avec l'Ouganda et le Togo. Ça sera à Douala que jouera cette équipe. Quelle importance a un CHAN pour un pays et une nation et une sélection qui ne disputent pas la CAN?
Je dirais que l'importance est une importance commune en Afrique pour tous les pays, par exemple, où donc le CHAN est considéré comme une plateforme supplémentaire pour exposer les talents africains. Mais spécialement pour le Rwanda, je pense qu'en plus, par exemple, en plus d'exposer les talents qu'on a en football, ça nous permet également non seulement d'exposer ces talents africains, mais aussi de pouvoir montrer, par exemple, la puissance du pays, non seulement comme un pays organisateur, parce que le Rwanda, il est présentement, il est connu, très reconnu comme un pays organisateur des compétitions sportives, mais quand même, on veut aller beaucoup plus loin. Et je te dirais qu'à l'heure où nous sommes, dans 13 joueurs, si je ne me trompe pas, dans 13 joueurs qu'on a qui jouent à l'extérieur, sauf 3 seulement, mais les autres 10 joueurs ont passé à l'étranger, mais à travers le CHAN. Je dirais que le CHAN a une grande importance.
Leur sert de promotion.
Oui, oui, oui.
Et
oui.
Est-ce que dans le pays, c'est une compétition qui intéresse beaucoup, qui passionne les spectateurs et les supporters?
Au pays, je dirais que c'est une compétition qui intéresse beaucoup plus même les supporters parce que
Oui,
ça permet à ces joueurs, par exemple, donc de montrer les talents, puis les fans aussi, les familles, les amis. Donc, ça les permet également de supporter ou de donner un coup de main à ces joueurs pour, par exemple, participer,
de se montrer,
oui, de se montrer et d'aller beaucoup plus loin.
Mmh. Rémi, le CHAN, ça va être une épreuve, on va dire, pour le Cameroun, dans le sens où le Cameroun va devoir prouver son sens de l'organisation parce qu'on sait qu'ils organisent en vue de la CAN en 2021.
Oui, et en même temps aussi, il faut se dire que quand on essaie quand même de voir certains matchs de préparatoire de ce CHAN-là, le Cameroun contre par exemple les Léopards, il n'y a pas eu une grande affluence. Mais néanmoins, quand on voit ce qui s'est passé pendant, ne serait-ce que les tirages au sort, on a vu qu'il y avait une certaine belle organisation.
Oui, en accueillant, déjà, ça va enflammer un peu le pays.
Maintenant, on va voir aussi la situation sociopolitique qui risque un peu d'être un peu trop tendue, qui est très tendue actuellement au Cameroun. Donc, on voit comment est-ce que tout cela va faire pour que les gens puissent aller au niveau du stade, au niveau des stades. Mais par contre, quand on essaie de regarder aussi certaines infrastructures, on ne pourra pas toutes les juger, particulièrement le stade phare du Cameroun, qu'on appelle le stade Olembe Paul Biya, qui justement, actuellement, qui devait être construit par... qui était construit par Piccini, l'Italien. Et puis, on est venu, le ministre des Sports a dit, bon, maintenant, c'est les Canadiens McGill qui vont s'occuper. Et puis, actuellement, on est en train d'entendre que Magui, lui aussi, cherche à démissionner de la construction de ce stade. Donc, du coup, ce stade ne sera pas testé pour le CHAN. Et ce stade, on n'est pas sûr qu'il servira même pour la CAN. Donc, et du coup, on attend donc voir ce que ça va un peu donner. Voilà.
Mais c'est important Habib, malgré tout.
Oui.
La question, c'est une compétition importante pour le football africain. Il doit être une compétition importante pour le football africain.
Mais est-ce que ça doit être la quatrième ou cinquième édition? Est-ce qu'il a déjà acquis cette importance?
Non, mais c'est la problématique parce que, en fait, c'est ce qu'on veut découvrir, c'est des champions locaux, en tout cas
voilà,
des talents
ça.
Locaux,
exactement.
Qui pourraient être capables ensuite d'intégrer l'équipe A. On avait eu l'exemple avec celui qui avait été élu meilleur joueur du
oui.
CHAN du côté marocain,
du
qui
Maroc.
Avait été ensuite l'attaquant du Maroc
à
en
Coupe
du
monde.
Mmh. Qui avait eu du mal à s'imposer en Coupe du Monde, qui avait rencontré des difficultés parce que forcément le niveau est plus élevé. Mais ça, c'est une forme de réussite déjà. Si on pouvait dupliquer, voir ce genre de choses dans d'autres sélections et se dire que d'un CHAN, on verrait ensuite, 2 ans après, dans une compétition majeure, 2-3 joueurs issus de ce CHAN dans le groupe des 23 d'une sélection A qui irait faire une grande compétition, on pourrait considérer à ce moment-là que le CHAN est une réussite. C'est ce qu'il doit être aujourd'hui. Il ne l'est pas encore, mais l'ambition, à la base, le CHAN, c'était aussi ça, de révéler des talents locaux, en quelque sorte.
C'était une belle idée, en tout cas. Alejandro, quelques commentaires?
Simplement, beaucoup de demandes à l'intention de Rémi, qui n'a fait qu'un seul proverbe aujourd'hui, et beaucoup d'auditeurs sont en manque.
On imagine qu'il va se rattraper. En tout cas, le calendrier aussi sera connu bientôt, et on y reviendra à cette compétition du CHAN, puisqu'il y a eu le tirage au sort. Allez, la session que vous attendez, c'est notre moment des cartons.
Carton jaune.
Un carton là.
Il sort un carton jaune.
Ouh là 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 là. Carton rouge.
Carton rouge.
Dans la confusion.
Carton vert.
Extraordinaire.
Rien à dire.
Honneur aux filles, honneur à Ariane, notre consoeur du Rwanda. Vous avez un carton, Ariane?
Oui, comme d'habitude, un carton vert pour mon équipe, Amavubi, qui joue contre l'équipe de Rémi. Ben, Rémi n'était pas, je ne sais pas s'il le savait.
Rémi ne joue plus au football depuis longtemps.
Non, quand même, le Cameroun, quand même.
Il joue contre Tottenham?
Non, il joue. Amavubi joue contre Cameroun dans un match amical. Avant, donc c'est pour les préparatifs, oui, les préparatifs du CHAN. Donc, un carton vert pour
les encourager.
C'est ça. Pour les encourager et puis dire bonne chance aussi à Vincent Machami qui attend de jouer contre son ancien, je dirais, boss, parce qu'il a été son sélectionneur principal. Et maintenant, il est le sélectionneur principal de l'équipe ougandaise.
Xavier Barré.
Ouais, un carton vert, moi aussi. Alors, non pas à une personne, mais à un mode.
Du positif. Dans voilà,
un mode de fonctionnement, besace. En l'occurrence l'assistance vidéo, qui était utilisée pour la première fois hier soir en phase d'élimination directe de l'Europa League.
Mm-hmm.
Parce que la Ligue Europa, il n'y avait pas droit jusqu'à présent, si ce n'est la finale, mais alors que la Ligue des Champions, il y avait droit. Et donc, j'ai trouvé que ça a vraiment bien fonctionné hier soir. Alors, il y a eu quelques histoires d'interprétation dans un ou deux cas. Sinon, on a vu que, voilà, elle était bien utilisée. L'UEFA avait fait ce qu'il fallait aussi en mettant des arbitres vidéo confirmés à côté des trios arbitraux habituels d'autres pays. Et surtout, on n'a pas vu le festival de buts avec des hors-jeux comme il y avait dans les phases de poule, où parfois on se disait, mais qu'est-ce qu'ils attendent pour mettre la vidéo? Là, elle y est et elle a été bien utilisée, donc bravo.
Habib.
Moi, c'est un petit carton jaune à quelque chose qui me tient à cœur parce que je suis consultant aujourd'hui et il y a les journalistes aujourd'hui et je trouve qu'on est en train de rentrer en fait dans une analyse de l'instant qui m'ennuie un petit peu à l'image du match du Paris Saint-Germain. Je trouve que on est excessif en fait dans tous les jugements qu'on a sans avoir de perspective sur l'avenir, sans avoir de perspective sur l'adversaire. J'entends aujourd'hui le jugement du PSG en occultant complètement ce qu'a fait Dortmund. Ça n'est que sur le PSG, sur ce que Neymar. Alors oui, ils ont des torts.
Vous n'avez pas écouté Radio Foot mercredi.
Non, mais sûrement, mais je dis juste et je m'y inclus encore une fois. Mais je pense qu'on rentre dans une ère où il y a tellement de médias et qu'on veut tellement être sensationnel qu'on en oublie en fait de prendre de la distance par rapport à l'événement. Et j'espère que notre profession, et là je dis consultant, journaliste, analyste du foot, tous les gens qui tournent, ne perdent pas de vue que le football est aussi à un moment donné un sport où on doit un petit peu prendre de distance, analyser à froid et ne pas aller à chaud, parce que je pense que dans 3 semaines, si le PSG met 4-0 à Dortmund et passe, certaines personnes qui ont eu des jugements radicaux et excessifs se retrouvent dans une situation de dire oui, bah en fin de compte, c'est vrai qu'il y a 3 semaines, et je pense que c'est important de garder dans notre métier cette culture de la distance. Voilà.
On essaye, Abid, rappelle... je vous promets, on essaye de le faire.
Oui, ça rappelle Emé Jacquet. Il faut vraiment garder cette culture de la distance vis-à-vis de Mourinho.
Ça rappelle Emé Jacquet après la finale à Coupe du Monde 98.
Et oui,
il s'était fait allumer. Et...
Mais il n'y a pas que dans ce pays. Hein, parce
tout
que,
le temps, on allume José
vécu,
Mourinho.
Pour avoir vécu au Brésil, hein, je peux vous dire que des fois, c'est pas. Je vous vole la parole, les garçons, avant que vous ne terminiez avec un carton vert de Radio Foot International. Alors, on va dire vert et jaune au roi Pelé. Le roi Pelé changé en statue. Vous allez pouvoir le voir, voilà, derrière moi, pour ceux qui nous regardent, dans le cadre des commémorations du 50e anniversaire du 3e titre. Vous savez qu'ils ont 5 étoiles, les Brésiliens. Ils fêtent la 3e cette année, gagnée en 1960. 70,
c'était, la plus belle.
Oui, c'est ce qu'on dit. La plus belle, c'était donc au Mexique, contre l'Italie. Pelé avait cette année-là marqué 4 buts. On va l'entendre, Pelé, parce qu'en plus, il avait de la chance. Quand on lui a présenté sa statue, ils étaient encore vivants, 9 triples champions du monde.
Je suis content qu'on laisse un magnifique souvenir à tous les Brésiliens. Quel bonheur de pouvoir encore fêter cela aujourd'hui dans tout le pays. Moi, avec la carrière que j'ai eue, j'ai déjà représenté le Brésil dans le monde entier.
Voilà, le roi Pelé. Alors évidemment, il faut aussi encourager parce qu'il a une santé assez fragile. Il n'a pas pu aller au musée de la Seleção du Brésil à Rio où était la fête. Rémi, votre carton.
Alors, Samba Ndiaye de ma page Facebook Raming en officiel et de mon site coufran.com donne le carton vert au président Macky Sall et aussi au président ivoirien Alassane Ouattara qui, non seulement à 3 ans de la Coupe d'Afrique des Nations, a déjà terminé les travaux des Bimpé. C'est un stade olympique qui a été construit à 64 milliards. Celui du Cameroun, c'est 300 milliards. Et puis, il y a quand même Macky Sall qui a aussi posé la première pierre du stade olympique du Sénégal. Ça, au moins, il faut déjà féliciter ça. Stade olympique. Donc, c'est quand même quelque chose qui est merveilleux. Comme le dit un proverbe africain, mieux vaut avoir une dent solide que d'avoir une bouche complètement vide.
Oui, il voudrait d'ailleurs organiser une CAN dans 4 ans. Alors, je crois que dans 4 ans, théoriquement, il n'y aura pas de CAN, mais bon. Alejandro Valente.
Ah, moi, je donne la parole aussi à ceux qui nous suivent et qui nous envoient des suggestions. Alors, il y a beaucoup de cartons verts.
Pas de carton pour Messi, alors.
Non, pas pour Messi. Il y a des cartons verts pour Haaland, le phénomène qu'on a admiré.
A raison.
Il y a des cartons verts pour l'Atalanta qui nous a enchantés. Certains disent une philosophie du jeu qui force le respect. Mais bon, j'ai retenu celui de ton code PIM Mamassi. C'est le nom de cet auditeur. qui donne un carton vert aux supporters du Bayer Leverkusen pour l'accueil qu'ils ont réservé à Moussa Marega. Vous vous rappelez, ce joueur malien qui avait quitté en fureur la pelouse du de Guimarães le week-end dernier pour des insultes racistes et qui là s'est rattrapé en Allemagne en recevant une ovation.
Mais Porto a perdu hein, malheureusement sur cette pelouse. Oui, 2-1. Exactement, c'est jouable au retour. Et c'est la fin de ce Café des Sports. Merci beaucoup messieurs, madame, d'avoir participé à cette émission aujourd'hui. Merci à Laurent Salerno qui était à la réalisation, à Pierre Guérin et David Finzel qui m'ont aidé à préparer l'émission et à Swell Kedir à la vidéo. On vous dit à lundi. Le coq chante.